Bonjour à tous, bienvenue sur Fais-Main, le podcast de la communauté Do It Yourself qui part à la rencontre des entrepreneuses créatives. Je suis Mélanie, la créatrice de ce podcast et je suis extrêmement contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Depuis un an et demi, je reçois des illustratrices, des aquarellistes, des créatrices qui travaillent le papier, le tissu ou le fil ou qui créent des DIY. À chaque fois, c'est passionnant et très inspirant d'entendre ces artistes nous parler de leur passion dont elles ont fait leur métier. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le parcours de Laetitia, alias Vert Cerise. Laetitia, elle a fait beaucoup de loisirs créatifs dans son enfance avec sa maman. Elle nous raconte comment elle est passée du métier d'ingénieure dans la fonction publique à celui d'entrepreneuse créative, en passant par un poste en community management chez Etsy. Elle anime encore aujourd'hui son blog qu'elle a créé en 2007 et qui a marqué le début de son aventure DIY. Entre livres, prises de photos et ateliers créatifs, Laetitia nous raconte son quotidien. Avec Laetitia, on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat, de perspectives en début d'année, de projets de vie. Et écoutez bien jusqu'au bout, vous y trouverez plein de conseils pour les futures entrepreneuses et entrepreneurs. Bonne écoute!
Bonjour Laetitia, merci de participer avec moi à cet épisode du podcast Fait Main. Bienvenue!
Eh ben bonjour Mélanie, merci surtout de m'avoir proposé de participer.
Alors on va parler aujourd'hui évidemment de Do It Yourself, parce que tu es une des actrices majeures du Do It Yourself en France. Est-ce que ça te va comme présentation? Comment tu te présenterais toi?
Oui, enfin ça me va, en même temps je crois que bon, on n'a que le son, mais si tu me voyais je crois que je suis en train de rougir en mode genre, waouh. Comment je me présente, c'est toujours un sujet compliqué, je crois que pour beaucoup de monde d'ailleurs, hein, qui fait plein de choses différentes. Depuis pas très longtemps, j'ose dire que je suis auteur en loisir créatif. Voilà. Jusque là, je disais souvent que oui, bah des fois j'écris des livres. Voilà. Je dis que je suis la créatrice de contenu. Toujours spécialisée dans le domaine du DIY. Je suis conceptrice et animatrice d'ateliers pour les entreprises. Et je commence tout juste à dire que je suis un petit peu photographe.
Alors que ta photo de profil, c'est toi avec un appareil photo. Alors on aurait pu penser que c'était quelque chose de plus ancré.
C'est pas faux.
Et je te le dis parce que je l'ai sous les yeux, évidemment, on enregistre sur Skype et c'est ton l'image de ton compte Skype, c'est pour ça.
Oui.
Aussi.
Et c'est vrai, c'est un appareil photo, alors mais avec quand même un étui tricoté, hein, je tiens à le dire.
Ah, d'accord.
Tricoté main, pour un DIY qui est publié il y a une éternité sur le blog. La photo, c'est un truc que j'ai toujours aimé, mais que... je pense qu'on va en reparler, mais la légitimité de se dire que t'es photographe est difficile, en fait. Enfin, pour moi, en tout cas, était plus difficile. Donc, j'ai jamais dit ça parce que je trouvais que j'avais pas les compétences, que c'était pas mon métier, que oui, je faisais de la photographie, mais je n'étais pas photographe. Et ça, pour moi, c'est très différent. Et en fait, de plus en plus, on me demande du travail de photographie. Alors, on va peut-être parler plus en détail, mais c'est vrai que cette dernière année, on m'a demandé beaucoup de photographie, plus que du DIY. C'est toujours sous couvert de contenu créatif, mais j'ai des marques qui me demandent trois lignes pour les réseaux sociaux et surtout une jolie photographie. Donc voilà, j'ai signé un contrat d'édition où j'ai eu un contrat de photographe pour un bouquin. Et et j'ai une marque aussi pour qui j'ai travaillé pour des contenus DIY qui est revenue vers moi pour me dire qu'ils voulaient m'acheter mes photos, mes droits de photo, jusqu'à 70 ans après ma mort.
Oh purée.
Voilà. Donc bon, j'ai fini par me dire que peut-être que j'étais un petit peu photographe. Même si j'ai pas du tout une formation de photographie. Alors après, je me suis formée, on en parlera peut-être, mais j'ai fait pas mal de formations là-dessus. Mais voilà, je suis pas photographe, je me débrouille.
Ah bon, un peu plus que tu te débrouilles. Alors, raconte-nous justement le début. Donc aujourd'hui, tu communiques sous le nom de Vert Cerise. Alors déjà, je veux bien que tu me racontes d'où ça vient ce Vert Cerise.
Alors, pour la petite histoire, quand j'ai créé ce blog, c'était en 2007, je crois, je cherchais un nom. J'en avais déjà un avant en plus, hein. Je te dirai peut-être comment il s'appelait. Donc, bref, c'est un autre sujet. Donc, c'était en 2007 et je cherchais un nom. Voilà, c'était la mode des blogs. Tout le monde avait un pseudo, hein, personne ne mettait, mettait son vrai nom, surtout pas d'ailleurs. Et j'ai penché à Cerise d'abord parce qu'en fait, c'est un prénom que mon papa voulait me donner quand j'étais petite. Enfin, quand je suis née. Il avait proposé cerise, il avait proposé, je crois, prune, pomme, etc. Et ma mère était là, genre, non.
Ça va pas être possible.
Ça va pas être possible, exactement. Alors, je la remercie pour prune. Je pense que j'aurais pas trop aimé m'appeler prune. Cerise, je trouve ça assez mignon, même si il y a une pub qui m'aurait bien embêtée pendant certain nombre d'années.
C'est clair.
Et voilà, c'était un petit clin d'œil en fait. Et puis du coup, bah j'étais là, cerise, ouais, je vais juste mettre cerise quoi. Donc il fallait que je rajoute un petit truc. Et déjà mon mec m'a dit pas rose. Hein. Voilà. Donc j'ai mis vert parce que c'est une couleur que j'aime bien, parce que moi j'ai fait des études en écologie, en environnement, donc il y avait une petite connotation là-dessus. D'accord. Et puis parce que c'était un petit peu abstrait vers cerise, voilà, ça peut pas dire grand-chose en soi, enfin ça n'existe pas en tout cas comme couleur, et j'aimais bien ce côté voilà, qui était un petit peu un peu surréaliste, qui voulait dire que tout ça n'était pas vraiment sérieux.
Ok. Et alors, donc tu nous parlais un petit peu là en quelques mots de ta formation initiale. J'allais dire évidemment, t'as pas fait d'école de Do It Yourself, ça n'existe pas.
Et ça aurait pu être un... une idée à lancer.
C'est ça. Il y a des choses dans le domaine des arts appliqués, mais c'est encore assez éloigné, je pense, du Do It Yourself. Tu as fait quoi comme étude? Et quel métier? Est-ce que tu as exercé un métier avant?
Oui, alors tout à fait. Alors je vais t'expliquer ça. Petit aparté, je crois que j'aurais adoré faire les arts appliqués ou une école d'architecture. Simplement, je n'étais pas du tout sensible à ça. Parce que personne ne m'a parlé que ça existait, est-ce que ça pouvait être. J'étais une bonne élève, voire très bonne élève. Et donc tout le monde disait, bah Laetitia va faire des sciences. Elle est bonne élève, elle va faire des sciences. C'était un peu... Voilà, donc bah tout le monde me le disait, donc je me suis dit bah oui, faut que je fasse des sciences évidemment. C'est ça qu'il faut faire. Donc j'ai fait des études scientifiques. J'ai un master en sciences de l'environnement, milieu urbain et industriel. Ça paraît un peu fou, même à moi aujourd'hui. Et voilà, je fais de la biologie, j'ai fait des sciences dans l'environnement, et comme quoi ça mène à tout.
Exactement.
Et j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant un certain temps. Alors, il faut savoir qu'en dernière année, en Master 2, je me suis spécialisée quand même, parce que je pense que je commençais à comprendre que c'était pas tout à fait pour moi, genre les travaux publics sur l'assainissement, par exemple. Je me suis spécialisée en communication environnementale, en relations publiques. Et donc, j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant un certain nombre d'années. J'ai travaillé dans des ministères et des collectivités où je faisais de la communication environnementale. Alors, j'avais eu une offre en fait chez Total que j'ai complètement refusée parce que je faisais pas des études en environnement pour travailler chez Total, c'était pas du tout mon truc. Et je m'étais dit bah oui, les collectivités et les ministères, oui, c'est bien, c'est le service public, ça peut être un truc chouette. Et voilà, du coup, j'ai fait un stage au ministère de l'Environnement où j'étais en charge de la campagne de communication qui est faite toutes les ans sur les eaux de baignade, la qualité des eaux de baignade.
D'accord.
Donc, je travaillais avec des associations aussi, comme les Pavillons Bleus d'Europe, que vous connaissez peut-être, en fait, qui mettent en avant les plages, qui ont une gestion les villes qui ont une gestion de leurs plages écologiques. Mais j'ai aussi travaillé avec la Surfrider Foundation, qui est une association surfeur, en fait, voilà. C'est pas toujours facile, du coup, parce que des fois, il y a des pavillons bleus et des pavillons noirs qui sont décernés par la Surfrider, les pavillons noirs, sur les mêmes plages, parce que les critères sont pas exactement les mêmes, les prélèvements sont pas... Enfin, on va rentrer dans un truc un peu complexe, je crois. Je vais peut-être pas m'apesantir là-dessus. Voilà, et puis après, je cherchais, après ce stage, j'ai travaillé en freelance un peu pour le ministère, pour faire des CD-ROM à l'époque.
Ouais, ça paraît fou aujourd'hui. Ouais, ça
Ça
paraît.
paraît un peu fou
Ouais.
sur voilà, la gestion de l'eau, l'écologie autour de l'eau, etc. Et puis j'étais recrutée par une collectivité quand je cherchais un boulot un peu plus stable, une collectivité en Île-de-France, pour travailler autour des thématiques de l'environnement, des transports, de l'aménagement urbain, etc. Et expliquer en fait grosso modo ce que faisait cette collectivité pour ses administrés. Voilà.
Ok, bon. Et alors, à quel moment tu as créé ton blog et comment, après ton blog, t'as finalement fait changer de carrière?
Alors, j'ai créé mon blog, donc oui, effectivement, en 2007. Alors, déjà, j'en avais déjà créé un avant, comme je te disais, donc je savais comment ça fonctionnait. Je m'ennuyais terriblement dans mon travail. Parce que, il n'y avait pas tant de travail que ça. Et puis après, il y a des changements politiques qui font que des fois, il y a moins de travail. Il y a des temps politiques où on communique moins dans des collectivités parce qu'on ne peut pas, genre, avoir les élections, ce
Bah
genre
oui.
de choses. Après, il y avait une lourdeur administrative qui me pesait énormément avec des schémas de validation qui étaient très compliqués. Et puis des changements, effectivement, de présidence qui ont fait que je me suis retrouvée dans le service de la communication avec un président de département. Qui était une personnalité très connue, et c'est devenu très politique. Ça me plaisait
D'accord.
pas, ça me plaisait pas spécialement. Donc, bah, tout ça et le fait que j'ai un peu de temps, j'avoue, a fait que j'ai créé mon blog. Et en fait, le déclic est arrivé. J'ai une collègue en fait qui est arrivée pour un remplacement de maternité avec qui je me suis super bien entendue, qui avait un blog aussi et qui un jour m'a dit, mais en fait, Laetitia. T'es ici, mais enfin, je sens que ça te plaît pas plus que ça. Et c'est quoi ton job de rêve, en fait? Et alors là, tu sais, ça fait comme un déclic. J'étais là. Oui, non, c'est sûr que c'est pas mon job de rêve.
Ouais.
Et en fait, j'étais là. Mais en fait, je sais pas. Je sais pas ce que c'est mon job de rêve. J'en ai aucune idée. Donc, par contre, ça m'a travaillé pendant un certain temps. Je me suis dit, il faut vraiment que je trouve quand même ce que j'aimerais faire. S'il n'y avait pas de contraintes, s'il n'y avait pas de. Si tout était possible, qu'est-ce que j'aimerais faire dans la vie, quoi?
Ouais.
Et en fait, bah, je me suis dit, non, mais moi, j'aimerais travailler sur un truc vachement plus créatif, j'aimerais rencontrer des créateurs, j'aimerais travailler, enfin voilà, ce genre de choses. Et je me suis dit, bah, ok, j'en suis hyper loin, quoi. Je suis dans une scientifique, je suis dans l'administration, dans un service de communication d'une administration. Voilà, qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour m'en rapprocher un tout petit peu?
Ben ouais.
Et je me suis dit que la solution, bah, la plus facile, immédiate, que je pouvais, le petit pas que je pouvais faire dans la semaine, finalement, une fois que j'avais décidé ça, bah, c'était d'ouvrir un blog. En plus, les blogs avaient commencé à prendre un petit peu d'ampleur, on commençait à en parler un peu plus. Moi, j'en avais déjà monté un quelques années plus tôt pendant mes études avec des amis. Donc, techniquement, je savais faire. J'avais du temps, j'avais les compétences pour le monter, ça commençait à monter. Je me suis dit, bah, Banco,
Go,
on y va.
ouais.
Et du coup, j'ai créé ça un petit peu sur un coup de tête et voilà.
Ben, grand bien
Quelques
t'en as
années
pris.
plus tard, oui, non mais grave. Quand j'y pense, je me dis, mais ce jour-là, j'ai eu peut-être la bonne idée de ma vie de faire ça.
Parce que du coup, après, tout s'est enchaîné, tout a découlé du blog, finalement. Ton activité aujourd'hui,
Oui,
elle
et
est...
Exact.
Ouais.
Ouais. Et c'est allé, enfin, je vais pas dire que c'est allé vite parce que non, ça a été très très lent parce que moi, après, j'ai passé les concours de la fonction publique en plus, je me suis un peu engouffrée dans le machin. Donc, j'étais ingénieure territoriale avec la sécurité de l'emploi, un bon salaire, etc. Donc, j'ai mis longtemps à accepter l'idée que oui, enfin, que le blog n'est pas juste un complément qui me permettait d'avoir une petite fenêtre très chouette et de me dire que je pouvais vraiment en vivre. Mais cela dit, ça a été très vite parce que j'ai monté le blog en 2007, j'ai comme mon auto-entreprise, j'ai commencé à facturer en 2010, c'est 3 ans. Et avant, j'ai eu rapidement en fait des contacts, voilà, avec d'autres blogueurs, mais aussi avec des marques en fait qui m'ont évité. Alors c'était les débuts de la blogosphère, hein, donc. On nous invitait à des événements, on nous faisait des petits cadeaux, des trucs comme ça. J'avoue que c'était plutôt sympa. mais c'était un petit à côté, voilà, un côté sympathique. Je n'y voyais aucune professionnalisation à l'époque. Et puis finalement, 3 ans plus tard, j'ai ouvert mon entreprise. Donc, je trouve que c'est relativement rapide.
Oui, surtout si tu n'avais pas d'attente initialement. Tu faisais ça pour le plaisir, quoi.
Ouais, exactement. Je n'avais aucune attente, mis à part avoir un truc qui me donne la patate et le sourire en me levant le matin, chose que mon job ne faisait pas.
Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est chouette. Et alors, les do-it-yourself que tu as commencé à faire, ça a commencé par quoi? Tu avais quel... est-ce qu'il y avait un domaine créatif qui t'interpellait, qui t'intéressait plus qu'un autre?
Alors, non, pas spécialement. Je crois que le deuxième article du blog était un do-it-yourself, ouais, de mémoire. Et c'était un tableau en pochoir que j'avais fait pour décorer notre appart. Voilà. Donc du coup, je crois que j'avais mis le dessin du pochoir que les gens pouvaient reprendre et il y avait une photo absolument catastrophique de cette création qui était en plus d'un verre pétant. Je sais pas, je m'étais dit « Ah ouais, trop bonne idée !» Bon, on était en 2007, hein, il faut tout relativiser. Ça avait l'air super cool à l'époque, je pense. Quand j'étais gamine, je faisais énormément de loisirs créatifs avec ma mère. Ma mère a travaillé dans les assurances, elle aurait adoré être maîtresse, enfin professeur des écoles en maternelle. La vie a fait qu'elle l'a pas fait et qu'elle s'est jamais lancée. Mais du coup, elle avait cette passion en fait de nous faire découvrir des choses différentes, de nous faire faire des choses. Voilà, on faisait du macomoulage, ouais. tissage de crocodile en perles. Je me souviens de décorations qu'on avait fait pour Noël, des banquises avec du modelage en pâte. Enfin, c'était pas de la pâte Fimo, je crois. Enfin, je sais même pas si ça existait, j'en sais
non,
rien.
Non, je pense pas, non. Ouais, ouais.
En tout cas, elle avait trouvé une pâte qui durcissait, qu'on pouvait modeler, etc. Enfin, voilà. On avait fait des pingouins, on avait fait une énorme banquise en polystyrène. Enfin, bon. Et en fait, j'en gardais des souvenirs assez joyeux et vraiment très chouettes. Mais c'est vrai qu'en grandissant, j'avais complètement perdu ça. Mmh. Voilà, parce que les études, parce que voilà, c'était un truc de gamin en fait pour ouais. moi quand j'étais ado. Et puis devenu jeune adulte, ayant notre premier appart, j'ai eu envie de refaire des choses par moi-même. Et le but en fait, c'était uniquement de partager. Parce qu'à l'époque, on parlait quand même vachement de notre vie. Il y avait beaucoup de billets d'humeur. Ouais. Donc, c'était plus de partager ce que je faisais, en fait. Donc, je pouvais être amenée, effectivement, à faire un tableau, à fabriquer une boîte, à... Voilà, plein de trucs différents, en fait. Ça dépendait de ce que j'avais envie de faire pour chez moi.
D'accord. Et ta maman, particulièrement, elle doit être super fière de... que tu... aujourd'hui... Tu crées des choses de tes mains, vu qu'elle avait cette appétence-là, cette attirance-là. Non, ça doit lui faire super plaisir de savoir que la petite graine qu'elle a plantée pendant ton enfance, ça a donné ça.
Oui, sûrement. Si, je sais qu'elle est contente. Je lui ai offert un des livres que j'ai publié en lui faisant une petite dédicace, en lui disant que voilà, tout ça, c'était grâce à elle.
Ouais.
Et c'est vrai que quand je lui ai offert, j'ai vu ses yeux quand même
qui brillait,
je pense.
Ouais. Oui, parce que tu vois, moi, je fais le parallèle avec mes filles. Je me dis si, à l'avenir, tu vois, si je sens que j'ai eu un rôle, en fait. Parce qu'en tant que parent, je trouve que souvent, tu te dis, bon, tu te demandes comment les choses vont évoluer. Et tu vois, quel est ce moment dans leur vie où ils vont avoir le déclic de ce qu'ils vont apprécier après, de ce qu'ils vont vouloir faire après. Enfin, je suis assez curieuse de ça, tu vois, souvent je me pose la question.
Ouais, c'est vrai que ça me fait pareil avec mon fils aujourd'hui. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, en fait, il avait vu un truc qui lui plaisait et en fait, il ne m'a pas demandé de l'acheter. Il m'a dit « Comment on peut le fabriquer ?» Et je t'avoue que mon petit cœur de maman DIY a genre fait « Oh, j'aurais au moins réussi ça
!» Ouais, ouais, c'est ça. Bon, ouais, c'est chouette.
Je trouve ça trop mignon.
Ouais, ouais, super. Alors, 2010, tu commences à facturer, donc tu as des premiers clients, des entreprises, hein, c'est toujours ça, hein, finalement. Tu n'as jamais ouais. vendu à des particuliers, tu as toujours vendu des prestations aux entreprises?
Alors, je vends principalement des prestations aux entreprises, j'ai quand même vendu aux particuliers. J'avais une boutique Etsy jusqu'à il n'y a pas très longtemps, toujours ma boutique qui est en ligne aussi, je crois, sur mon site, où je vendais de la papeterie. Parce qu'il y a un truc que j'adore faire, c'est des motifs. Et du coup, je donnais les motifs au départ en téléchargement sur mon blog. Ils sont toujours d'ailleurs, hein, je les donne toujours. Mais j'avais lancé une ligne de papeterie avec des cartes postales, des carnets, enfin voilà, plein de choses. Et puis au fur et à mesure, je l'ai étoffé, j'avais rajouté des kits DIY, je vendais aussi les livres que j'écris pour les particuliers. J'ai même eu pendant quelques mois une boutique à La Rochelle.
Ah bon?
Ouais, excellent. Tout à fait. Avec 4 autres créatrices où je vendais mes créations. Donc, la papeterie, les livres et des kits do it yourself.
Voilà. D'accord, excellent.
Et en fait, j'ai fermé la boutique sur Etsy au moment du premier confinement parce que je jugeais que c'était pas essentiel et que je voulais pas que des postiers, des livreurs, etc. Prennent des risques pour ça. Et puis je m'étais dit bon, je verrai dans quelques temps quand ça sera un peu moins sensible, en tout cas pour moi. Et puis il se trouve que j'ai eu énormément énormément de travail, donc pour l'instant je ne l'ai pas rouverte.
D'accord. Bon, donc le contexte économique n'a pas d'impact sur ton activité, et ça c'est super chouette. Bravo.
Oui, alors c'est même effectivement bizarre à dire, c'est qu'il a eu un impact presque positif. J'aurais préféré que non, en fait. Enfin, j'aurais préféré voir tout ce positif sans qu'il y ait ça, on va dire.
Voilà. Ouais, c'est ça, ouais.
Ça c'est sûr et c'est évident. Après, oui, moi j'ai eu beaucoup de demandes de création de contenu, pour les réseaux sociaux, pour les marques.
Et qu'est-ce qui a changé pour ces marques? Pourquoi aujourd'hui elles ont besoin d'acheter ces prestations et qu'elles ne s'étaient pas réveillées avant? C'est parce qu'il n'y avait plus d'autres types de contenus Enfin, je ne sais pas, alors, ça m'interroge.
Je ne sais pas exactement, je pense qu'il y a plusieurs choses. Que d'un côté, effectivement, il y a des investissements en communication qui devaient être prévus et qui ne pouvaient pas avoir lieu et que les budgets ont dû être redispatchés. Aujourd'hui, faire un affichage en métro, ça a quand même vachement moins de sens. En tout cas, au début du premier confinement, ça n'avait pas beaucoup de sens. Donc, est-ce que les gens qui avaient prévu ça, ils n'ont pas redispatché les budgets sur autre chose? La deuxième chose, c'est que je pense que voilà, la priorité, ça a été la communication digitale pour beaucoup de marques. Et aussi, des retours, ça par contre, que j'ai eu de mes clients, c'est qu'ils voulaient aussi proposer des contenus qui créent du lien et qui crée un sentiment positif. Ouais. Donc, je pense que la période est quand même assez morose et angoissante.
Oui, c'est sûr.
Donc, il y a, je pense, certaines marques qui se sont dit qu'est-ce qu'on peut apporter de positif. Et le loisir créatif, quand tu es chez toi avec tes enfants, etc., c'est vrai que c'est quand même un super moyen de se sortir un peu la tête de toute cette actualité complètement déprimante.
Ouais.
C'est d'ailleurs, tu as des cours d'art thérapie ou ce genre de choses, c'est pas pour rien. C'est parce que effectivement, quand tu es concentré à faire quelque chose de tes 10 doigts et que tu arrives à un résultat qui fait plaisir, ça fait du bien.
C'est clair, ouais, c'est clair.
Donc je pense qu'il y a peut-être simplement certaines marques qui se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire. Ils ont réfléchi, ils se sont dit tiens, peut-être que ça c'est une bonne idée, on va le tenter, quoi.
Voilà.
Bon. Après, je sais pas, je suis pas dans leur tête. J'ai des liens privilégiés avec certains clients, donc je sais que
voilà. Oui, pour certains, tu es ok, ouais.
Certains, il y a eu de ça. Après, je sais pas pour tous.
Ouais, d'accord. Bon, bah, en tout cas, c'est chouette. Et puis j'ai vu que ces derniers temps là sur Insta, tu montrais aussi un peu les coulisses de kits que tu de kits DIY que tu emballais, que tu préparais. Alors, les collaborateurs d'entreprise.
Tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. D'habitude, je fais des ateliers. Enfin, on me demande des prestations des fois en entreprise pour faire des team building ou ce genre de choses, des journées de motivation des employés ou de bien-être.
Ouais.
D'où je me déplace physiquement, voilà. Et en fait, du coup, certains se sont reportés sur des événements online, donc avec des applications comme Zoom ou comme d'autres applications. Et du coup, là, je travaille pour une entreprise, effectivement, où on travaille sur le Noël interne. Donc, on va faire des ateliers DIY. Donc, je pense que l'épisode sera diffusé après Noël.
Oui.
Donc, je peux en parler. Je ne vais pas gâcher la surprise si jamais certains des employés de cette marque écoutent ton podcast. Donc, on va faire des bougies avec des fleurs séchées Et on va faire des couronnes de Noël en fleurs stabilisées.
C'est génial, ça.
Voilà. Et du coup, avec la marque, on s'est dit, bah, comment faire ça? Et du coup, on a commandé tout le matériel pour le faire et qui est redispatché chez chaque employé, puisque les employés de cette entreprise sont en télétravail.
D'accord. Voilà. Bon, ça, c'est génial. Moi, j'adorerais qu'on fasse ça dans ma boîte.
Ouais, alors, ils ont prévu plein de trucs. Je crois qu'il y a des concerts, il y a des trucs beauté, des tutos beauté. Enfin, voilà, c'est un espèce de mini-festival de Noël de l'entreprise.
D'accord.
C'est cool.
Bon, c'est une belle boîte, quoi.
C'est en tout cas super sympa de faire ça pour ses employés, c'est clair. Je trouve que c'est une petite attention quand même qui fait plaisir par les temps qui courent, surtout qu'on est tout le monde est chez soi, donc les liens
sont
quand même un peu plus compliqués. C'est l'occasion de recréer.
On a un peu morflé quand même cette année, donc c'est pas mal, je trouve.
Tu m'étonnes.
Bon, bah c'est chouette. Et alors, entre ce moment donc où tu commences à facturer, tu es en auto-entreprise, et puis aujourd'hui, je crois que tu as eu aussi des activités salariées, par exemple quand tu travaillais chez Etsy.
Oui, alors, déjà, je suis restée pendant un certain temps dans la collectivité dont je te parlais, où j'étais fonctionnaire en tant qu'ingénieure. J'ai mis quand même assez longtemps à me dire que j'avais fait toutes ces études pour rien, entre guillemets. Je mets vraiment entre guillemets parce que c'est jamais pour rien, mais voilà, j'ai quand même j'ai un bac plus 5. Bon, c'est vrai que t'as investi, c'est dur de se dire que t'as investi sur un truc qui te correspond pas, en fait.
Ouais, c'est clair. Puis pour tes parents aussi, j'imagine.
Oui.
C'est une petite, un petit tension en cœur, ouais.
Et après, alors mes parents, ils sont super cool avec ça. Mon frère a monté sa boîte aussi. Pourtant, mes deux parents ont fait leur carrière dans la même boîte, enfin vraiment à l'ancienne, tu vois, en montant les échelons. Et par contre, ils nous ont jamais retenus, en fait. Enfin, ils ont jamais exprimé leur angoisse, etc. Ils nous ont toujours plus poussé à y aller en se disant, bah de toute façon, voilà, vous avez fait des études et ça vous permettra aussi de retomber sur vos pattes si jamais votre truc marche pas.
Ouais, c'est ça. Et puis après, certes, tu apprends un certain métier, mais tu apprends aussi à travailler, tu apprends à apprendre. Enfin,
ah, tu apprends plein d'autres choses.
Voilà. Et donc finalement, même si c'est pas le métier que tu exerces, tout ce que tu as appris, t'as quand même forgé à devenir toi, et c'est jamais perdu.
Voilà. Et puis ça marche aussi pour tous les deux, donc ils sont un peu plus confiants, je pense.
Ouais.
Voilà, on n'a pas trop de difficultés, donc ils ont été rassurés petit à petit, je pense aussi. Mais cela dit, j'ai quand même mis vachement longtemps, moi, à me dire que oui, je pouvais pas jeter à la poubelle, mais en tout cas mettre de côté ces 5 années d'études et aussi la préparation d'un concours d'ingénieur, etc. C'est pas forcément facile à avoir.
Ouais.
Et puis mettre de côté aussi ce que tout le monde me disait, que j'étais complètement folle de mettre de côté, c'est-à-dire un boulot à vie en tant que fonctionnaire, bien payé. C'est vrai que ça paraît un peu fou, en fait, de se dire, ben, voilà, dans la situation actuelle économique, même il y a quelques années, hein, c'était pas quand même la folie. Tu te dis, bon, ben non, je vais lâcher, en fait, complètement ce truc que tout le monde presque rêve d'avoir. Pas tout à fait, mais
voilà. Et alors, ça a duré, tu as fait les deux en parallèle pendant combien de temps?
Alors, j'ai fait le blog et mon travail en tant que fonctionnaire pendant combien de temps? Alors, je suis très nulle en date. Je dirais bien pendant 5-6 ans.
Ouais, d'accord.
Quand même.
parce que je pense que parmi les auditrices, hein, par rapport aux messages que je reçois très régulièrement, je sais qu'il y en a plein qui veulent se lancer. Mais qui évidemment hésite parce que, bah, comme tu le dis, tu as le confort entre guillemets d'un emploi, qu'il soit en CDI ou dans la fonction publique, avec le salaire qui tombe, etc. Tous les mois. Le contexte n'aide pas à se dire qu'il y a un confort derrière. C'est évidemment pas du tout le moment où on peut se dire que quoi que ce soit n'est confortable. Mais quoi qu'il en soit, admettons que je gagne ma vie correctement. À quel moment tu as fait le switch en te disant ok, par exemple, bah en ce moment je gagne 50% de mon salaire tous les mois, est-ce que c'est suffisant pour se lancer ou est-ce que tu as attendu finalement de suffisamment facturer, mais en sachant que t'étais pas à temps plein non plus sur ton activité? Mais tu vois ce que je veux dire?
Je vois tout à fait.
Comment tu calcules à un moment donné le moment de te dire bon allez, là j'y crois suffisamment J'ai suffisamment oui, confiance en mon projet, j'ai suffisamment confiance dans les mois qui viennent de se passer pour dire bah ok, si je gagne donc mon salaire c'est 100%, si je gagne aujourd'hui 40% ou 60%, tu vois, à quel moment tu t'es dit bon bah allez c'est bon, je peux faire le switch et je lâche complètement mon activité alors salarié slash fonction publique.
Alors moi, ça s'est fait en plusieurs temps. J'ai pas lâché tout de suite.
Ouais.
Donc j'étais fonctionnaire, donc je faisais ça en loisir. J'ai monté mon entreprise. Alors c'est un peu compliqué quand tu montes ton entreprise et que t'es fonctionnaire, faut que tu passes
Ouais.
devant une commission de déontologie où on regarde
D'accord.
si. Enfin bon, voilà. Donc j'ai fait toutes ces démarches. J'ai eu le droit de monter mon entreprise et du coup j'ai commencé à travailler là-dessus. Et franchement, c'était super chouette. Donc, il y a eu un jour où il y a eu un déclic, une réunion qui s'est passée de façon horrible, où je me suis mis à chialer. Enfin, bon, bref, le truc, je te passe les détails. Je me suis dit, en fait, c'est plus possible, je peux pas rester ici. Le management, en plus, qui était à l'époque, me convenait pas du tout.
Ouais.
C'était assez agressif, c'était un peu misogyne, c'était, enfin, bref,
Ouais, rien.
j'étais pas bien déjà, et si j'ai fondu en larmes pendant cette réunion, c'était juste parce que c'était la goutte d'eau qui débordait le vase. Et là, je me suis dit, en fait, je peux pas rester ici, et j'ai cherché une autre solution.
D'accord.
Mais je me suis pas lancée à mon compte tout de suite à ce moment-là.
D'accord. Et c'est là où tu as fait du salariat?
Et c'est là où j'ai fait du salariat. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu l'opportunité, en fait, de travailler d'abord chez deux créateurs. J'ai travaillé pour Petit Pan, Petit Pan. Il y a beaucoup de gens qui disent Petit Pan, mais ça se dit Petit Pan, donc qui est une marque de création pour enfants et pour la maison, et pour Tsetse Associés, qui sont deux designeuses en fait d'objets. Je sais pas si on dit designeuse ou designer d'objets,
Je ne sais
mais
pas, mais féminisons,
voilà. Donc je travaillais au départ 2 jours pour l'un, 2 jours pour l'autre, et j'avais gardé une journée entière pour moi.
d'accord.
Rapidement, j'ai eu besoin de plus de temps, donc j'ai réduit mon temps de travail pour ces créateurs et j'ai pris 2 journées pour moi. Wow. Et en fait, après, j'ai eu l'opportunité de travailler pour Etsy. Alors, pour la petite histoire, j'avais monté un événement influenceur, blogueur pour Petit Pan parce qu'on lançait à ce moment-là la mercerie. Et du coup, Etsy se lançait en France et je me suis dit, bah tiens. Peut-être que c'est la bonne idée, on va faire ça. On va faire une craft party à cette époque. Etsy fait des craft parties à Paris. Donc, c'était des journées ou des soirées où on créait des choses ensemble.
Génial.
Donc, moi, j'avais déjà participé à ça à titre personnel. Je connaissais du coup un petit peu la directrice d'Etsy France de l'époque. Et je lui avais dit, bah, voilà, moi, je travaille pour une marque, Petit Pan, pour enfants. On lance vraiment la mercerie qu'on veut vraiment booster, l'espace mercerie. Et du coup, bah, est-ce que ça vous dirait en fait qu'on fasse une craft party ensemble où on invite en fait des personnes dans l'atelier et ils créent avec les créateurs? Et elle a été emballée, donc on a monté l'événement, etc. Et puis du coup, après, ils cherchaient un community manager et elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresse? Donc Etsy, c'était un peu ma boîte de rêve.
Ah ouais, c'est clair. Oui, quand j'ai du
Donc j'ai
contexte,
dit bah écoute oui tout à fait.
c'est parfait.
Donc elle m'a dit bah écoute envoie-moi un CV, voilà, on a un recrutement en cours. Il y a d'autres personnes sur le coup mais tu peux m'envoyer un CV et puis si en fonction on fera un entretien en anglais avec le personne qui s'occupe de l'international du développement international d'Etsy. Donc j'étais en mode hyper excitée et panique en même temps. Parce que j'étais là, gros enjeu. Donc quand t'as un gros enjeu,
Ouais, c'est clair.
généralement, gros enjeu pour moi en tout cas. Et j'étais là, putain, c'est génial! Et en
M'étonne.
même temps, genre, après j'étais là, oh, non mais un entretien en anglais! Donc c'était un peu les montagnes russes chez moi. Et puis bah, j'ai envoyé mon CV, j'ai fait l'entretien. Alors en plus, on a fait l'entretien dans un café, il y avait vachement de monde. À l'époque, il y avait vachement de monde dans les cafés. Donc j'étais là, oh, je vais rien comprendre, voilà. Parce que bon, j'ai un niveau d'anglais qui est correct, mais qui est pas non plus, voilà, foufou. Et puis en fait, ça s'est bien passé.
Donc, tu y es resté combien de temps chez
Je
Etsy?
suis restée 7 ans.
Ah ouais, c'est énorme.
Ouais, c'est pas mal. Donc la boîte a énormément changé, j'ai beaucoup appris. C'était un peu le grand écart parce que finalement, en un an de temps, parce que je suis restée un an sur ma formule salariat pour Petit Pan, etc., et à mon compte, je suis passée en fait de la fonction publique à l'équivalent d'une start-up américaine, quoi.
Ouais.
C'était
ouais.
un peu le grand écart, c'était
ouais,
des méthodes complètement différentes et c'était hyper enrichissant en même temps. C'était, c'était très chouette. En plus, franchement, déjà, c'était un peu ma boîte rêvée. En plus, là-dessus, on nous dit, ah, bah, j'étais arrivée depuis quelques mois, on va tous à Brooklyn. J'étais là. Comment ça? Ok, d'accord, on va travailler une semaine à Brooklyn. Ok, et bah oui, c'est parfait, allons-y.
Génial.
Et puis voilà, j'ai rencontré des gens qui étaient dans une bienveillance, qui étaient, enfin, un management qui était à l'opposé de ce que j'avais connu en fait. Et c'était, c'était presque une révélation quoi. C'était genre.
Ouais, tu m'étonnes.
Voilà, parce que ces boîtes en fait américaines qui sont vachement dans la tech, en fait, ils ont l'habitude de recruter beaucoup d'ingénieurs. Et il faut savoir que les ingénieurs sont extrêmement rares à trouver. En tout cas. Je pense qu'ils le sont encore, je ne connais pas très bien aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, c'était très difficile de trouver des très bons ingénieurs, donc tu voulais les garder, en fait. Donc, toutes les boîtes se mettaient aux petits oignons, en fait.
Ouais.
Je pense que c'est toujours le cas, ouais.
Ouais.
Mais en tout cas, le bien-être de l'employé était extrêmement important pour ces boîtes, parce que voilà, il fallait que les gens soient bien et qu'ils restent, parce qu'ils avaient des compétences, en fait, qu'on ne voulait pas perdre.
Ouais.
Et donc, du coup, ça induit un management qui est complètement différent de ce que j'avais pu connaître avant et qui a été une révélation pour moi, voilà, qu'on pouvait faire du management humain. Voilà. Et c'était très, très agréable, faut bien l'avouer.
Tu m'étonnes. Ouais. Bon, donc, une super expérience chez Etsy. Et alors, après, comment ça s'est terminé? C'était quoi la prochaine transition vers ta situation actuelle?
Alors en fait, ça, la transition s'est faite, je vais dire un peu, à un moment où je suis devenue maman, où Camille est née. Alors j'avais pas forcément prévu de changer quoi que ce soit, mais il se trouve qu'en fait Camille avait pas mal de problèmes de santé. Enfin pas mal, j'exagère parce que non, il avait pas mal de problèmes de santé. C'est la maman mère poule qui parle un peu là. En fait, il avait des bronchiolites à répétition et donc il avait été déclaré asthmatique et le docteur nous avait dit que c'était certainement lié à la pollution en fait atmosphérique.
D'accord, parce que t'habitais encore à Paris à ce moment-là.
Ouais, j'habitais en région parisienne, j'habitais à Montreuil.
Ouais.
Bah c'est vrai que malgré tout, t'as pas forcément envie que ton enfant, même si c'est pas extrêmement grave, hein, soyons clairs, t'as pas forcément envie de le voir se faire des séances de kiné respiratoire, voilà, qu'il soit déclaré asthmatique, qu'il doit prendre de la ventoline, c'était un enfer de lui faire prendre sa ventoline, etc.
Ouais, ouais. Bon, simplement, tu voulais le meilleur pour lui, quoi.
Voilà. Et du coup, c'est vrai que nous, on avait un peu envie d'essayer autre chose que la région parisienne. Moi, je suis une parisienne, je suis née à Paris. Enfin, voilà, j'ai connu que ça. Et on avait un peu envie de changer. Donc, on a fait estimer la maison. On avait acheté une maison à Montreuil à retaper entièrement. On a passé 10 ans à la retaper, quand même.
Ouais.
Voilà, on a fait estimer la maison. Et puis, on s'est aperçu qu'en fait, en la vendant, on pouvait rembourser notre prêt et acheter quelque chose ailleurs. Et ne plus avoir de prêt.
Ouais.
Donc là, on va retomber sur les pas de ta question précédente.
Mmh.
Quand on s'est rendu compte de ça, je me suis dit que peut-être que si je n'avais pas cette épée de Damoclès du prêt à rembourser chaque mois au-dessus de ma tête, ce serait peut-être aussi plus facile de me lancer. Et que dans ce cas-là, oui, effectivement, je pourrais peut-être envisager de travailler entièrement à mon compte et de passer à 100%.
Parce que pendant que tu travaillais chez Etsy, tu avais encore quelques actions, quelques facturations, quelques projets avec ton auto-entreprise.
Ouais, j'en ai toujours eu pendant
toujours eu,
tout
ouais.
ce temps.
D'accord. Ok. Mais excuse-moi, t'étais à temps plein chez Etsy pour autant?
Non, j'étais à 80%.
D'accord. Ok.
Voilà. Donc c'est notamment pendant que j'étais chez Etsy que j'ai écrit un certain nombre de livres.
D'accord.
Et oui, j'ai toujours eu quelques petits trucs à droite à gauche. Voilà, j'ai jamais lâché le blog.
Ouais.
Voilà, et j'ai toujours gardé ça parce que ça m'a apporté tellement de choses qui sont très positives en fait dans ma vie que voilà, quand tu travailles pour une boîte, c'est quand même pas ta boîte, donc les choses peuvent évoluer. Et que tu sais pas finalement de quoi demain sera fait. Bien que je ne sache pas vraiment de quoi demain sera fait aujourd'hui.
Ouais, pour ton entreprise non plus, il y a effectivement beaucoup d'incertitudes, mais au moins, t'es chez toi, entre guillemets, tu travailles pour toi et tu es actrice
oui.
de tout ça.
Et puis moi, je travaillais avec les vendeurs beaucoup après. chez Etsy. Et voilà, une marketplace, ça a énormément d'avantages, mais c'est pareil, tu n'es pas chez toi.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est souvent un peu ce qu'on reproche à Etsy aussi. Hein. C'est les frais et puis le fait que bon, bah, tu n'es pas chez toi. Donc, si Etsy a envie de changer les règles du jeu, c'est un petit peu comme quand tu es sur Instagram.
Exactement.
Et, voilà, sur toutes les plateformes tierces où tu n'es pas chez toi, et bah, il faut t'adapter.
Voilà. Les frais adresse, c'est sûr que ça peut paraître cher. Bon, moi, j'estime que ça reste tout à fait raisonnable parce que si tu veux vendre dans les boutiques, de toute façon, on va te demander bien plus. Mais ça, c'est parce que moi, je viens aussi, par mon expérience chez TTC et Petit Pan, d'un monde de design d'objets qui passe par de la diffusion en boutique. Et donc, où tu dois avoir une marge, enfin, tu dois proposer une marge importante aux boutiques pour qu'ils prennent tes produits.
Ah ouais,
donc, du coup, venant de là au départ, c'est vrai que les frais d'Etsy me semblent relativement raisonnables. Mmh. Et je pense qu'il faut effectivement que tu calcules tes prix quand tu es créateur, éventuellement pour un jour pouvoir vendre en boutique. Parce que si ta boutique marche, il y a de fortes chances que des boutiques physiques en fait, viennent vers toi. Et après, tu peux avoir un mode complètement digital, mais. Voilà, tu te prives de ça si tes prix ne sont pas calculés pour pouvoir un jour vendre en boutique. Il faut le savoir, ouais. C'est tout. Ceci est un petit aparté.
Et alors, donc, du coup, tu disais que les relations avec les vendeurs Etsy, c'était quelque chose d'important pour toi. Et je sais que ça te tient à cœur, justement, d'apporter un max de conseils à tous ces créateurs qui veulent démarrer la vente de leur création.
Bah, ça a été mon boulot pendant un certain nombre d'années. Mmh. Parce que effectivement, j'ai commencé comme community manager classique, en fait. Et rapidement, en fait, mon métier a évolué, en fait, plus sur de. Alors, c'était du community management, mais très spécifique, puisque moi, je m'adressais aux vendeurs qui étaient sur la plateforme.
Ouais.
Donc, j'écrivais ou je traduisais pas mal d'articles de conseils. Et je mettais aussi en place des programmes, en fait, pour les aider à développer leur activité. Mmh. Donc, je me suis vachement occupée notamment des Team Etsy. Donc, c'est une fonctionnalité du site, en fait, qui permet de créer des collectifs. Ouais. Ça peut être régionaux, ça peut être thématique.
D'accord.
Les deux existent. Après, voilà, c'est un outil qui est mis à disposition et j'ai envie de dire qu'il est utilisé comme bon semble aux personnes qui sont sur le site. Mmh. Donc il y avait effectivement des groupes thématiques, par exemple des gens qui veulent, je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être, s'entraider pour calculer des prix, ça pouvait être pour faire des actions marketing online, ce genre de choses.
D'accord.
Et c'est vrai que moi je bossais vachement avec les teams géographiques en France et en Europe, et on mettait en place en fait des actions, donc. Proposer en fait de participer à des actions qui pouvaient être bah, créer un marché ou se réunir en fait pour engager une photographe qui va faire un cours pour t'apprendre à faire des photos par exemple.
Mmh, d'accord.
On avait ce genre de choses. On donnait des bourses aussi, des bourses financières pour aider ces teams en fait à mettre en place leurs actions. Et voilà, enfin il y avait plein de choses différentes. Donc j'ai vu par exemple la naissance de la team Etsy Lyon qui est devenue aujourd'hui le collectif Les Mains qui fait des trucs juste géniaux.
C'est clair, ouais. Alors, j'ai eu déjà quelques invités qui en font partie.
Voilà, donc après il y a un système, il y a des capitaines, il y a des leaders de team dans le système Etsy. Et puis voilà, enfin voilà, je bossais avec tous ces gens-là, c'était hyper chouette.
Ouais, ça a dû te faire finalement un grand réseau sur lequel tu as pu peut-être aussi t'appuyer derrière, ou pas ?
Oui, un petit peu, mais pas plus que ça, parce que mon activité, j'avais pas forcément besoin de ces contacts pour la développer.
Mmh.
Et après, c'est un réseau aussi d'amitié, parce que comme j'ai travaillé avec eux pendant des années, on faisait aussi des réunions, en fait. On invitait, en fait, tous les capitaines de team à venir pour un week-end. On en a fait un à Nantes, on en a fait un à Paris. On le faisait aussi à l'étranger, avec une sélection de team où on pouvait s'inscrire. Donc, on a fait des réunions à Amsterdam, enfin, voilà, par exemple, dans d'autres villes.
Okay.
Les capitaines étaient invités de toute l'Europe, en fait, pour bah, un week-end, en fait, d'échanges, de partages, de conférences, de réflexions sur voilà, comment on pouvait bah, aider la communauté à grandir. Alors, quand je dis grandir, c'est bien sûr, Etsy, ça reste une entreprise hein, qui est coté en bourse, avec tout le côté économique, donc grandir, avoir plus de membres, mais aussi grandir, être, se développer en tant que vendeur Etsy.
Ouais, ouais, d'accord.
Voilà, c'était pas que auto-centré sur la marque.
Ouais, 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 d'accord. Très bien. Donc, une super expérience et progressivement, c'est pareil, ça s'est fait progressivement, là, cette transition vers 100% à ton compte?
Ah non, bah alors pour le coup, ça s'est fait d'un seul coup.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire que, voilà, quand j'ai décidé de déménager, j'en ai parlé du coup avec l'équipe. On m'a d'abord proposé un télétravail, puis finalement, on m'a dit que ça n'allait pas être possible. Et donc, j'ai démissionné, en fait.
D'accord. Et ça, c'était il y a combien de temps? Parce qu'aujourd'hui, en plus, je pense que...
C'était en 2017.
D'accord, ouais, c'était déjà il y a 3 ans. Aujourd'hui, ouais. On t'aurait dit, bah, pas de souci, tu travailles à distance.
Bah oui, peut-être.
Ouais. Ok. Et donc, depuis 3 ans, maintenant, tu es à ton compte. Tu travailles 100% pour toi.
Tout à fait.
Avec des entreprises et puis donc aussi pour les particuliers, comme tu nous disais, jusqu'au printemps.
Voilà, exactement. Parti pour les particuliers, tu étais vraiment très faible.
Ouais, d'accord. Ok. Parce que tu as toujours finalement eu ces demandes entrantes d'entreprises, de marques qui voulaient animer des ateliers ou faire des choses ou t'acheter des photos, etc. Enfin, oui. Ou des créations. Finalement, ça a toujours été plus les entreprises que les particuliers.
Toujours, oui. Effectivement. Ouais.
D'accord. Et c'est ça, tu n'as pas eu besoin de faire de prospection. C'est ton blog qui donnait à voir ton travail. Et finalement, les demandes de ces marques et de ces entreprises te venaient grâce au blog.
Et oui, tout à fait. Et alors, heureusement, parce que je pense que je suis une grosse bille en tout ce qui est marketing, etc.
Mais je pense comme beaucoup. Hein. Enfin, c'est toujours, je connais pas une seule. Enfin, si, parmi les invités que j'ai eus, je crois qu'il y a que Anne d'Illustration Patrimoine qui fait de la prospection. Mais sinon, je pense que tout le monde est dans cette démarche-là, en fait, parce qu'effectivement, c'est un autre métier. Et souvent, les personnes ne sont pas vraiment à l'aise pour faire cette partie-là. Puis c'est très énergivore. Hein.
Alors, c'est exactement ça. Moi, j'aime pas me vendre.
Ouais, ouais, ouais.
J'aime pas ça. Et finalement, oui, le blog a été ma vitrine, en fait. Et il m'a vendu malgré moi, en quelque sorte. Alors, après, j'ai quand même fait quelques petits trucs. Donc, c'est vrai que déjà, comme je bossais... j'ai énormément appris parce que, par exemple, j'ai bossé avec Pinterest en Angleterre pour mettre en place des programmes pour aider les créateurs à booster leur visibilité sur Pinterest. Ça m'aidait aussi, forcément, de façon indirecte. Mmh. Parce que j'ai appris beaucoup de choses à travers ça. On a aussi fait appel à un expert de tout ce qui était référencement pour essayer d'expliquer comment on pouvait référencer à la fois ses fiches produits sur Etsy, mais aussi en dehors d'Etsy. À quel point les liens sortants, etc., enfin, les liens entrants pouvaient être importants. Bon, j'ai appris beaucoup de choses aussi, ce qui m'a permis de faire 2 choses à peu près correctement. C'est le référencement de mon blog sur les choses qui m'importaient. Mm-hmm. Et de savoir que voilà, les réseaux sociaux, c'était aussi important pour avoir de la visibilité.
Oui, ouais, d'accord. Donc, pas tellement besoin de prospection, mais tu t'es donné les moyens pour que... qu'on puisse trouver ton travail. Et puis après, j'imagine qu'avec Instagram, bah, ça a aussi facilité les choses. Aujourd'hui, on te contacte plus facilement sur Instagram ou sur le blog?
Eh bien, les deux.
Les deux.
Ouais. J'ai quand même, moi, pas mal de demandes via les formulaires de contact ou par email, en fait. Plus que sur. Enfin, même, je pense, un peu plus que sur Instagram.
D'accord. Et alors, tout à l'heure, on parlait des conseils aux créateurs. Je crois savoir que tu. Envisage à un moment donné de proposer une formation pour les créateurs do it yourself. Est-ce que ça fait partie des projets que tu auras sur 2021 ou c'est un petit peu moins concret que ça?
Alors, je vais voir. En fait, pour tout expliquer, quand je me suis lancée à 100% à mon compte, je me suis pris des gros stress. où il y avait des mois où mon bilan était genre catastrophique.
Ouais.
Et sur les 2 premières années, notamment entre janvier et mars, c'était le calme plat. Il y avait quelques petits trucs qui tombaient à droite à gauche, mais c'était vraiment pas la folie. Et loin de là. Donc, du coup, bon, première année, c'était le tout début, je me suis dit, ouais, c'est normal, voilà. J'avais beau être angoissée, je me dis, c'est peut-être normal. 2e année, je fais, ah, d'accord, ça va être tous les ans comme ça. Voilà, bon, quelques économies de côté, mais bon, j'ai pas non plus envie de d'enlever toutes les économies, parce qu'à un moment, il n'y en aura plus.
Bah oui.
Donc, la troisième année, je me dis, ah, cette année, je ne vais pas me faire avoir. Il faut que je trouve un truc, en fait, à faire pour ces mois où j'ai moins de travail.
Ouais.
Donc, je m'étais dit, ce que je pourrais faire, c'est une formation, en fait, effectivement, reprendre un peu ce que je faisais chez Etsy avant, qui était quasiment l'intégralité de mon travail, de mettre en place une formation, en fait, online pour les créateurs qui veulent se lancer et puis les aider, en fait, tout simplement, en leur donnant les conseils, des conseils que j'espère bons, en tout cas, pour lancer et développer leur entreprise créative. Parce que souvent, je reçois même des demandes, en fait, de gens qui me disent « Ah, comment t'as fait ? Ça m'intéresserait, etc. » Du coup, j'ai tout préparé. J'ai même lancé une version un peu bêta qui a été testée par une dizaine de personnes.
D'accord, oui, donc t'étais déjà bien avancée.
Oui, j'étais bien avancée. Et puis, du coup, j'étais fin prête pour janvier de
2020.
2020. Ouais. Sauf qu'en fait, j'ai pas du tout eu trop dans mon activité. Au contraire, j'ai eu tout de suite des commandes, plein de choses à faire, etc. Donc, je me suis dit, je vais pas le lancer parce qu'en fait, l'idée, c'est aussi d'être disponible, en fait.
Oui, c'est pour accompagner tes apprenants, les personnes qui...
Voilà, c'est un programme qui est prévu sur 6 semaines. Mais si moi, je dois jongler entre mon travail pour mes clients... que je peux pas bâcler et ce truc qui me tient à cœur sur lequel je vais être très mal si j'y passe pas le temps que j'ai envie d'y passer parce que ça me plaira pas et puis j'aurai l'impression en plus de proposer un truc au rabais, je me dis ça sert à rien donc je le fais pas. Voilà.
Oui, mais c'est assez raisonnable, c'est bien d'avoir le courage de se dire bon bah là, je décale un peu même si ça me tient particulièrement à cœur, je décale pour le faire correctement.
Bah oui, pour moi c'est une évidence. Je veux pas faire quelque chose de au rabais, on va dire.
Ouais. Et alors du coup, est-ce que tu vas avoir ce creux en début 2021 ou là c'est pareil, c'est parti pour faire
mystère. Pour l'instant, je ne sais pas.
C'est pas ouais. D'accord. Tu vas voir comment les choses évoluent.
Je vais voir comment les choses évoluent. Pour l'instant, c'est vrai que moi, comme je te disais, j'ai eu beaucoup, beaucoup de travail. Donc, pas du tout le temps. J'ai même, tu vois, fermé ma boutique pour me libérer du temps parce que c'était pas un revenu qui était essentiel pour moi. Pour tout te dire, j'ai une très bonne année. J'ai, par contre, des nouvelles choses qui me tombent dessus, du coup, parce que, du coup, je dois facturer la TVA. J'ai dépassé le quota. Ouais. Donc, je découvre les joies d'une compta un petit peu plus complexe.
Ouais.
Ce qui est une bonne nouvelle en soi, hein.
Oui, c'est ça. Mais avec d'autres soucis, quoi. T'es plus en régime simplifié de la micro-entreprise. Là, tu as d'autres charges mentales.
Voilà, exactement. Donc, essayer de trouver un comptable qui soit malgré tout dans mes possibilités de revenus.
Ok. Voilà. Donc, bon, des beaux challenges effectivement pour 2021 avec cette perspective de formation en ligne que tu peux dégainer à n'importe quel moment.
Voilà, à peu près. Elle est encore d'actualité.
Ouais. Et puis, tous tes projets avec les entreprises.
Voilà, ouais. Tout à fait. Ouais, c'est chouette parce que du coup, là, c'est vraiment cette année où je vois mon entreprise qui grandit, en fait.
Ouais.
Et je travaille aussi, du coup, avec quelqu'un, pour l'instant, en freelance.
D'accord.
Qui m'aide, en fait, quand j'ai besoin. Donc déjà, pour moi, c'est une étape hyper importante parce que je trouve ça génial, en fait, que ce que j'ai créé puisse apporter du travail à quelqu'un. Alors, c'est ponctuel pour l'instant, mais je me dis que si ça continue, peut-être que demain, ce sera un peu moins ponctuel. Et puis voilà, ce serait très chouette. Ouais. Ce serait un nouveau challenge, donc certainement encore un peu compliqué administrativement parlant, mais en tout cas, ce serait...
Ouais. Parce que, justement, le régime de micro-entreprise n'est pas spécialement adapté pour la collaboration. Donc, tu auras vite fait finalement de devoir changer de statut pour passer en société, c'est ça ?
On verra, pour l'instant j'ai fait le point déjà avec un comptable, c'était ma première étape de savoir est-ce que je reste sur ce statut ou pas. Donc je dois faire comptablement je suis beaucoup plus rigoureuse, je tiens vraiment tout le compte de tout, etc. J'étais déjà assez rigoureuse, hein, mais là, je suis obligée de garder vraiment chaque facture, de comptabiliser la TVA, de...
Oui, oui, oui.
Voilà. c'est beaucoup plus contraint. Et donc, on a dit qu'on ferait un bilan voilà, dans 6 mois pour voir mon taux de charge et voir si c'était toujours intéressant de rester sur une micro-entreprise ou pas. A priori, à venir de ce que j'en vois pour l'instant, c'est toujours intéressant de rester sur une micro-entreprise parce que j'ai pas des charges énormes. Voilà, je fais de la création de contenu, je suis pas une créatrice qui va acheter de la matière première. Quand je fais des ateliers, comme on parlait, où j'envoie, en fait, déjà c'est exceptionnel, c'est du fait de la situation que j'envoie les kits aux personnes. Après, voilà, j'ai payé une partie, j'ai avancé l'argent pour une partie, mais le client aussi a commandé beaucoup de choses qu'il a fait livrer chez moi. Donc, ça rentre pas dans mes charges, etc. Donc voilà. Donc, il faudra que je vois ça. Donc oui, par contre, effectivement, quand je prends quelqu'un pour m'aider, un extra, une freelance, je récupère pas les charges comme l'entreprise.
Ouais, c'est clair. Enfin, c'est clair. J'espère que c'est clair pour tout le monde. j'ai fait un épisode, c'était le 41. Je commence à saturer au niveau des chiffres. C'était l'épisode 41 avec J'aime la paperasse, Stéphanie. qui justement nous expliquait en fait tout ce contexte et cette gestion administrative dans les différents statuts, etc. Donc voilà, enfin la lumière de cet épisode normalement ça doit être plus clair pour tout le monde, j'espère en tout cas.
Donc voilà, si vous n'avez pas compris ce que je viens de raconter, allez écouter
l'épisode 41.
Voilà, là on est plus dans l'épisode J'aime le papier que la paperasse, mais.
Exactement. Ok. Et alors, est-ce que là sur 2021, tu arrives à comment dire, faire comme on ferait dans une entreprise, à te projeter sur un budget, un prévisionnel de vente, etc. Ou est-ce que les entreprises avec lesquelles tu travailles finalement, soit elles n'ont pas trop de visibilité elles-mêmes sur les actions qu'elles veulent mettre en place sur 2021. Et puis après, évidemment, tu auras de nouveaux clients. Tu vois, comment tu fais, toi, pour un peu prévoir ton année 2021? Parce que là, donc, on enregistre, on est mi-décembre. Donc, c'est aussi le bon moment pour se projeter sur l'année 2021. Comment tu envisages les choses? Comment tu vois, en tant que, justement, chef d'entreprise ou chef de micro-entreprise pour l'instant, mais voilà, tu vois où tu dois effectivement un peu te poser les bonnes questions et essayer d'avoir un prévisionnel et pas uniquement de subir entre guillemets les choses, même si c'est pas tellement positif, mais de suivre un petit peu au fil de l'eau ce qui t'arrive. Est-ce que tu arrives à avoir un peu de visibilité sur l'année entière?
Alors j'adorerais pouvoir l'avoir parce que je pense que ça me rassurerait énormément. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que déjà en plus le contexte est quand même assez particulier.
C'est clair. Hein. Et puis l'exercice est particulièrement difficile. Hein. Moi je le fais pour mon entreprise au niveau des ventes sur le marché des particuliers. Donc rien à voir sur la formation en ligne. C'est déjà très difficile de le faire habituellement et compte tenu du contexte. Donc encore plus j'imagine quand on est freelance.
Ouais, c'est extrêmement compliqué en tant que le contexte. Déjà en temps normal, j'y arrive pas spécialement, donc là encore moins. Je sais pas du tout en fait au niveau des entreprises comment vont être décidés les budgets pour l'année à venir. On entend un peu tout et son contraire entre les gens qui disent que effectivement il va y avoir des restrictions de budget pour beaucoup d'entreprises, d'autres qui disent oui, mais le digital va peut-être pas être le premier à en pâtir. Au contraire, en fait, pour relancer la machine, les entreprises vont avoir besoin de faire des dépenses en fait en marketing et notamment online. Après, moi, je suis pas du tout spécialiste en fait de cette question, donc j'entends un peu tout et son contraire. Donc, je sais pas. Je sais pas. Donc, comme je sais pas, j'ai deux choix en fait. Soit je me mets en mode panique.
Et tu te roules en boule et sous un plaid et t'attends que ça passe. Voilà. Mais c'est pas très productif.
Soit j'essaye plutôt de et c'est ce que j'essaye de faire. Hein. J'essaye plutôt de réfléchir en fait à si jamais demain j'ai pas de client, qu'est-ce que je fais? De client pro. Donc en fait, moi ce que j'ai fait, c'est effectivement réfléchir à d'autres possibilités en fait de continuer à pouvoir vivre de mon activité tout simplement.
Donc voilà, c'est le maître mot de 2020 et des années à venir, l'adaptation. Et finalement,
ouais, je pense, ouais.
Voilà, comment se réinventer en disant, bon, ben voilà, si effectivement il y a une activité qui marche moins bien, qu'est-ce que je peux lancer d'autre?
Exactement. Bah, c'est ce que j'essaye de faire en tout cas.
Ouais.
Et ce que j'ai fait aussi, c'est que bah, comme j'ai eu une bonne année, j'essaye de bah, réinvestir ce que j'ai pu. Voilà, ce que je peux avoir en plus de ce que j'ai véritablement besoin pour vivre
Ouais, d'accord.
dans du matériel, dans des formations, dans voilà,
Voilà.
d'autres choses.
Impeccable. Et alors, tout à l'heure, on parlait des conseils pour les entrepreneurs et entrepreneuses créatives. Est-ce que tu nous ferais un petit top 3 des meilleurs conseils que tu pourrais donner? Alors peut-être, c'est compliqué hein, comme ça, mais est-ce que peut-être des conseils pour des personnes qui hésiteraient à se lancer, et puis après des personnes qui sont plutôt dans une phase qui ont déjà franchi le cap, mais qui ont besoin de se développer.
Alors, déjà en introduction, ce qui n'est pas un conseil, mais qui est un conseil, c'est que je pense qu'il n'y a pas de route toute faite, en fait. Il faut réussir déjà à créer sa propre route qui se correspond à soi. Parce qu'on voit des fois sur Internet des trucs, il faut, pour réussir, il faut être sur Instagram, il faut être sur Pinterest, il faut, enfin, voilà, il y a 10 000 injonctions, en fait, pour le créateur. Et je pense qu'en fait, il faut aussi prendre le temps de se poser et de se dire qu'est-ce qui, à moi, me convient. Parce que pour avoir travaillé avec des centaines de créateurs chez Etsy, moi, j'ai vu des gens qui y arrivaient en faisant que de la pub. J'ai vu des gens qui arrivaient en faisant leur com uniquement sur Instagram. J'ai vu des gens, enfin, il y a tellement des gens qui y arrivaient parce qu'ils faisaient plein de marchés et qui se faisaient connaître localement. En fait, il y a 10 000 façons, finalement, de réussir à développer ton activité en tant que créateur. Et il faut pas forcément écouter toutes les injonctions qu'on te donne sur Internet parce que sinon, bah, tu te perds et tu fais plus que ça. Et tu fais des fois des choses qui te correspondent pas et tu les fais pas forcément bien. Donc, je pense qu'il faut quand même prendre le temps déjà de se poser et voilà. Et pas forcément écouter tous les conseils. Donc, je donne des conseils pour ne pas écouter les conseils, c'est tout à fait logique.
Non, mais je trouve ça hyper intéressant parce qu'effectivement, tu pourrais te dire, alors, ok, admettons par exemple, je suis pas du tout fan de Pinterest. Je vais pas prendre l'exemple d'Instagram parce que je vois pas quand même un créateur qui pourrait ne pas fonctionner sur Instagram, mais c'est certainement possible, hein, mais par exemple, j'aime pas du tout Pinterest, bah, finalement, ce que je retiens de ton conseil, c'est, bah, te force pas. Fais autre chose à la place. C'est
Te
ça.
force pas, ou alors voilà, attends, enfin,
Attends que ça vienne.
tu peux aussi le confier à quelqu'un d'autre qui aime ça,
Oui, c'est vrai.
si t'as les moyens de le faire. Je pense que en fait, il y a tellement de gens qui s'obligent à tout faire et qui du coup le font pas avec le cœur et pas à reculons, on va dire.
Je comprends, tout à
Et
fait.
que quand tu fais quelque chose à reculons, généralement, tu fais pas forcément très très bien. Et est-ce que ça vaut le coup de de passer beaucoup de temps à faire quelque chose que tu fais pas super bien? C'est une question à se poser. Je n'ai pas forcément la réponse, mais des fois, en fait, bah, notre temps en tant que créateur d'entreprise, hein, aussi petite soit-elle, eh bah, il vaut quelque chose. Et si je passe une demi-heure à créer une épingle sur Pinterest parce que je me demande dans quel tableau la mettre, qu'est-ce que je vais mettre comme description, enfin, ou ce genre de choses. C'est un peu caricatural parce que passer une demi-heure sur une épingle Pinterest, il faut y aller quand même. Mais sur Instagram, tu pourrais très bien passer une demi-heure à écrire, à trouver les bons hashtags, à tout ça. Est-ce que ce temps, finalement, la valeur qu'il vaut, mon temps, moi, en tant que créateur, est-ce que bah, ce serait pas plus rentable de le confier à quelqu'un d'autre qui aime ça et qui fait ça super bien? C'est pas toujours facile parce que en tant que créateur et souvent on a des entreprises qui sont micro-personnelles, donc on est tout seul en fait dans notre entreprise et on a l'habitude de tout faire soi-même.
Et puis de pas avoir forcément beaucoup de moyens non plus pour déléguer.
Voilà. Mais je pense qu'à un moment, enfin, il faut quand même se poser la question de est-ce que mon temps ne serait pas mieux utilisé ailleurs? Juste cette question.
Ouais, c'est clair.
Voilà.
Est-ce que
Et
tu...
si c'est pour le faire mal, est-ce que ça me rapporte vraiment quelque chose aussi?
Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu as d'autres conseils, peut-être pour des gens qui se sont déjà lancés?
Alors, juste avant,
Vas-y,
parce que
vas-y.
du coup, c'était mon faux conseil.
Ah oui, c'était ton intro, pardon.
Désolée. Pour ceux qui se sont pas encore lancés, je pense que un truc qui est extrêmement important, c'est de se poser pour se demander vers quoi on veut vraiment aller. Je pense que c'est vraiment la question numéro un à se poser. Moi, c'est celle qui a créé le déclic. C'est, grosso modo, c'est quoi, en fait? Qu'est-ce que tu rêves dans ta vie de faire? Donc, c'est quoi ton job de rêve? Mais c'est quoi aussi ta vie qui va avec? Parce qu'on est quand même des entreprises qui, souvent, qui sont unipersonnelles. Donc, on peut effectivement avoir un job de rêve, mais qui n'est pas du tout compatible avec sa vie de rêve.
Ouais.
Ça peut arriver. Et je pense que c'est important, voilà, de vraiment mettre à plat, en fait, tout ce qu'on a envie dans la vie et construire un projet, en fait, qui soit cohérent avec toutes les parties de nous-mêmes. Je sais pas si ça fait un peu schizophrène, mais...
Non, mais je comprends. Et puis, alors là, on est dans une bonne période. On va diffuser l'épisode début 2021. Ça sera c'est souvent le moment, quand même, où on se pose des questions. Même si, en 2020, on s'en est pas mal posé. Je pense que les gens ont quand même beaucoup réfléchi.
Je pense. Mmh. On a eu un peu de temps. Et puis, le contexte fait qu'effectivement, tu te demandes... Tu te poses ce genre de questions. Mais je pense que c'est vachement important pour pas t'oublier en route aussi.
Mmh.
Et devenir esclave d'un travail si c'est pas vraiment ce que t'as envie, en fait.
Ouais.
Parce que j'ai vu des créateurs qui ont fait des burn-out, qui sont devenus complètement esclaves de leur travail, qui se sont oubliés dans leur projet d'entreprise créative. Ça existe aussi. Et je pense que c'est bien d'avoir des objectifs pour son entreprise, mais c'est bien aussi d'avoir un horizon, en fait, sur sa vie, globalement, ce qu'on en veut. Est-ce qu'on veut avoir plus de... pouvoir s'organiser comme on veut sur son temps de travail pour pouvoir gérer une famille à côté? Est-ce qu'on veut, au contraire, devenir une espèce de businesswoman? C'est pas forcément... Je le dis pas de façon péjorative, parce que des fois, au contraire, c'est tout à fait... Voilà, chacun a ses envies, en fait, dans sa vie. Et voilà, faut être clair. Je pense qu'il faut être clair soi-même avec ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et voir si notre métier de rêve, il est compatible avec ça, et si on se fait pas bouffer par notre travail.
Ouais.
Bref, voilà. Après, pour les gens qui se sont déjà lancés, on en a un peu parlé tout à l'heure quand je parlais de mon blog, que c'était la solution la plus facile à mettre en place pour moi, pour m'approcher un tout petit peu justement de ce truc que je rêvais de faire. Je pense que c'est important, c'est voilà, choisir en premier le petit succès rapide.
Voilà.
Parce que ça va être facile, ça va être rapide, ça va apporter des résultats tout de suite. Donc, grosso modo, c'est faire un petit peu faire le champ des possibles. Qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour atteindre mon objectif? Je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et je vais choisir en premier le petit succès facile. Donc, si je n'aime pas Pinterest, effectivement, c'est peut-être pas la meilleure idée d'aller directement sur Pinterest et de s'engouffrer dedans, parce que ça ne va pas être facile si je n'aime pas ça.
Ouais,
parce qu'il va falloir... Et si je n'aime pas ça, ça va être plus difficile de me former. Et je vais y passer plus de temps. Et voilà. C'est aussi de tester des choses, en fait. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment appris en travaillant chez Etsy. Ils étaient vachement là-dessus. C'est on peut tester des choses sans monter une visée à gaz, sans tout de suite vouloir atteindre la perfection. Et voilà, aller au rapide pour tester une idée, pour tester une opportunité de business qu'on a identifié, etc., sans tout de suite que ce soit genre le truc hyper compliqué. Voilà, il y a souvent des solutions. Avec les outils qu'on a à disposition aujourd'hui pour tester des idées et faire des tests assez rapidement et voir ce que ça donne, et puis on améliore après.
Ouais, carrément.
Voilà. Et tout ça, en fait, bah, finalement, ça permet. C'est comme quand tu as envie de courir un marathon. Si tu n'as jamais couru de marathon, tu ne vas pas te lancer tout de suite dans le marathon. Ouais. Tu vas commencer par t'entraîner et faire peut-être une demi-heure de course autour d'un lac au bois de Vincennes. Parce que si tu te lances tout de suite dans le marathon, bah, tu vas mourir sur place tout de suite, quoi. Tu vas être là, j'en peux plus, et tu vas te dire, mais plus jamais je fais de marathon. Alors que t'es certainement capable de courir un marathon si tu t'es entraîné pendant un an avant.
Ouais.
Parce que, voilà, t'as ce truc qu'on dit que quand tu commences à faire du sport, au début c'est difficile, et puis au fur et à mesure ça devient de plus en plus facile, t'as les hormones du plaisir, la dopamine, etc., qui se mettent en place, qui te donnent envie
de continuer,
et ça devient presque un besoin. Bah, je pense que c'est un petit peu pareil, en fait, quand tu montes une entreprise, c'est un espèce de marathon.
Ouais.
Tu vas commencer avec des choses qui sont plus faciles. Tu ne te lances pas tout de suite dans le grand truc. Et puis, petit à petit, tu vas booster ta confiance en soi. Ça va donner envie de faire peut-être un truc un petit peu plus gros, un petit peu plus grand. Et petit à petit, tu vas commencer à sortir un peu plus de ta zone de confort et puis à te dire que, ouais, tu vas y arriver, en fait, à le courir, ce marathon.
Et j'aime bien l'idée, le parallèle du marathon, parce que c'est ça, c'est de l'endurance, en fait, une entreprise.
Ouais, je pense que c'est vachement d'endurance, même, je dirais, de persévérance, en fait.
Ouais.
Alors, il ne faut pas persévérer.
Oui, 15 ans et ses vertus et ses la santé, oui.
Ça ne veut pas dire de ne pas se remettre en question, ça ne veut pas dire de ne pas changer ce qu'on fait, persévérer. Ça veut dire que, voilà, on continue, on teste de nouvelles choses, on essaye de nouvelles choses, si ça n'a pas marché, on analyse aussi pourquoi ça n'a pas marché. Et ça, c'est important, tu vois. Je pense que c'est un truc que j'ai vraiment appris, c'est que l'échec, en fait, c'est une fantastique opportunité d'apprendre plein de choses sur pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois.
Ouais, c'est clair. Voilà. Après, l'échec, en fait, la peur d'échouer peut aussi paralyser. Donc, il faut arriver à passer au-delà de ça et se dire que, justement, à la limite, c'est pas grave parce que tous les gens qui ont échoué ou qui ont eu quelque chose qui a moins fonctionné que ce qu'ils auraient imaginé, finalement, ils ont toujours rebondi là-dessus. Et je pense qu'il faut garder en tête cette confiance-là. Le fait de se dire, ok, ça n'a pas aussi fonctionné, autant fonctionné que j'aurais voulu, mais j'ai appris des trucs, inévitablement.
Inévitablement. Alors, je pense qu'après, il ne faut pas se mentir, je ne connais personne qui lance un nouveau projet sans cette petite appréhension de dire, j'appuie sur le bouton ou pas.
Ouais.
Voilà, enfin... Moi, j'ai rencontré personne... Enfin, à partir du moment où ça te tient à cœur...
C'est ça, c'est ce que j'allais dire, ouais. Forcément, tu as envie que ça réussisse et donc que tu es déçu si ça marche moins.
Voilà. Mais en t'entraînant justement avec des petites choses qui sont plus faciles à mettre en place et qui vont te montrer que ça marche, en fait, finalement, tu as un peu moins peur d'appuyer sur ce bouton de lancement au fur et à mesure. Et puis, tu finis par te dire que ce serait finalement plus dommage de même pas le tenter que l'échec.
Ouais, c'est ça. Parce qu'après, tu peux avoir le sentiment de regret, de dire, je saurais jamais si ça aurait pu fonctionner.
Ouais, et ça, je trouve que c'est pire que tout, le regret. Tu vois, par exemple, un truc super idiot, c'est qu'il y a pas longtemps, je me suis remis au piano. Moi, j'ai fait vachement de piano quand j'étais gamine. Et en fait, j'étais persuadée d'être une grosse bille au piano. toute mon enfance, ma prof de musique, déjà, ne m'aimait pas parce que je faisais du basket à côté, donc c'était pas compatible pour elle de faire du basket et du piano, parce que je me faisais une entorse au pouce ou des choses comme ça, donc ça m'avait été hors d'elle.
Effectivement.
En plus, j'avoue, je pense que je ne travaillais pas assez le piano la semaine. Donc, du coup, le mercredi, quand j'allais au mon cours de piano, déjà, j'y allais avec la peur au ventre parce que je savais que j'allais me faire engueuler parce que je ne maîtrisais pas le morceau,
le morceau
comme il aurait fallu. Donc, j'étais rentrée un peu, en fait, dans une espèce de cycle infernal de dévalorisation et d'échec du piano. Donc, en fait, pour moi, c'était clair, j'étais pas du tout faite pour le piano, c'était pas pour moi, j'avais un sens du rythme pourri, j'arrivais pas à coordonner ma main gauche et ma main droite, j'étais vraiment une grosse bille. Et puis, mon mec, il adore la musique, et là, pendant le confinement, on a récupéré un piano, enfin, il a acheté un piano. Et du coup, j'ai eu envie, bizarrement, de m'y mettre.
Et alors, du coup, c'est tout ce
qui et du coup, j'ai choisi des morceaux qui me plaisaient. Hein. Je me suis pas fait les séances du déliateur comme je faisais en cours. Alors, ceux qui ont fait du piano verront peut-être ce que c'est le déliateur. Hein. C'est un truc qui, des exercices, en fait, de gamme, de machin, trucs qui sont faits pour te délier les mains pour que tu sois plus souple et que ce soit fluide, etc. Mais c'est vraiment pas du tout amusant. Surtout pour une gamine.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Voilà, et puis j'ai avancé à mon rythme. Alors oui, ça a mis un certain temps, etc. Mais moi, mon mec qui fait de la musique, mais qui a jamais appris le solfège, par exemple, il était étonné que je puisse encore déchiffrer une partition. Alors c'est loin d'être parfait, hein, voilà. Et puis, en fait, du coup, ça a été valorisant pour moi. Et puis, j'ai quand même réussi à faire rapidement la mélodie d'un truc de Satie ou de Debussy, etc. Et j'ai eu envie de continuer, et voilà, et c'est pas parfait, mais en fait, je suis pas une bille en piano.
Ouais, ouais.
J'ai juste rentrée dans une espèce de dévalorisation terrible parce que c'est ce qu'on me disait et parce que je l'ai cru et parce que je travaillais certainement pas assez non plus et j'avais pas cette motivation. Et je pense que dans l'entreprise, c'est un peu pareil en fait. Il faut beaucoup de travail, il faut de la persévérance, mais il faut aussi beaucoup de confiance en soi au bout d'un moment. Et cette confiance en soi, elle est souvent pas innée, donc il faut la travailler.
C'est clair. Bon,
c'était très clair, mais voilà.
J'espère que ce sera clair pour tout le monde. Effectivement, moi, je suis assez convaincue comme toi. Je vois bien le parallèle avec le piano et puis la confiance en soi. C'est ce qui manque, je pense, à énormément de personnes. Et c'est ce qui manque aussi quand on est enfant. Bon, hier soir, ma fille de 11 ans me disait... enfin voilà, en gros, elle me disait des trucs de pré-ado et que voilà, la conclusion, c'est qu'elle avait pas confiance en elle. Et je me dis, mais comment je peux l'aider en fait? Donc voilà, et ça fait partie des choses où si on gagne un peu en confiance pendant l'enfance et l'adolescence, certainement que ça va nous donner des armes pour l'avenir. Donc travailler la confiance en soi, c'est hyper important.
Ouais, ça j'en suis persuadée. Moi je le vois aussi, mon fils il n'est pas du tout pré-ado parce qu'il a 5 ans et demi, mais il fait de l'équitation et s'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut, c'est la catastrophe quoi. C'est je suis nulle, j'y arriverai jamais, etc. Et c'est fou parce qu'il est petit et on essaye vraiment de lui donner confiance en lui. Apparemment on n'y arrive pas suffisamment bien.
Ouais, mais ouais, c'est ça qui est extrêmement compliqué, je pense.
Je pense que c'est ça doit être plus ou moins naturel, j'imagine, dans certaines personnalités. Et après, la confiance en soi, voilà, ça s'acquiert, je pense, et c'est long.
Ouais, c'est un travail. Ouais.
Quand tu ne l'as pas au début, en fait, et je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont véritablement, une confiance en soi innée, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça tient vachement aussi du fait qu'on a tendance à juger et que les réseaux sociaux nous donne 1000 occasions de penser qu'on est nul.
Ouais, de se comparer, tout ça. Ouais, c'est clair. Ouais.
Bon. Et que, voilà, je sais pas. Mais c'est vraiment, c'est dur. Hein.
Ah ouais, non, je pense que c'est le travail d'une vie.
Exactement.
Ouais.
Je commence à avoir un chouï plus confiance en moi sur certaines choses.
Ouais. Voilà. Bon. Pour conclure, Laetitia, de quoi tu es la plus fière aujourd'hui?
Oh, alors, c'est dur comme question. je dirais que je suis la plus fière d'avoir finalement réussi à quitter mon job.
Ton job de fonctionnaire. Ouais.
Mon job de fonctionnaire. Parce que ça a été un cheminement qui a été long, c'était compliqué dans ma tête. Il y avait vraiment ce côté que voilà, j'avais investi des années d'études, j'avais vraiment travaillé, que c'était en plus moi l'écologie, c'est un truc qui m'intéressait énormément, hein. Enfin voilà, j'étais avec mes grands idéaux, voilà, mes grands idéaux d'ado et jeune adulte, comme quoi voilà, il fallait y aller, c'était hyper important. La réalité du job a été beaucoup moins rigolote. Donc en fait, il fallait à la fois quitter une sécurité de l'emploi, mais aussi un idéal, dont certes la réalité n'était pas aussi belle que le rêve, mais quand même qui m'avait construit pendant de nombreuses années, qui était voilà, je vais faire un truc pour la planète.
Ouais.
Voilà, j'étais le genre de gamine qui était abonnée à Vie Sauvage, voilà. Donc ça faisait longtemps que c'était un truc qui était important. Je harcelais les parents sur le tri des déchets. Enfin,
ouais, déjà à l'époque.
Ils m'en parlent encore.
Bon.
Voilà, donc c'était réussir à quitter tout ça, ce qui paraissait un peu fou, pour se lancer sur quelque chose que tout le monde considérait comme du loisir et de l'amusement.
Ouais. Mais je trouve que c'est un super parcours. Qui n'est pas linéaire et qui montre en fait que c'est possible. Tu avais quel âge quand tu as quitté ton emploi de fonctionnaire?
Je devais avoir la trentaine.
Ouais. Et t'avais pas encore ton garçon?
Non. Non, non. Bien plus tard, ouais, je l'ai eu vers 36 ans, je pense.
Ouais. Donc, je te demandais ton âge pour toi avoir des points de repère aussi. Et de se dire, c'est pas, en fait, quel que soit l'âge, si on se rend compte qu'effectivement le métier qu'on pensait s'être choisi, finalement, c'est pas le bon ou ce n'est plus le bon, bah, on peut changer. Et
Ouais.
qu'on ait des enfants ou pas encore, qu'on soit en train de se construire ou que les choses soient déjà un peu établies, finalement, c'est possible. Et
Oui,
c'est chouette, quoi.
je te parlais en début d'interview de ma maman et qu'elle voulait être prof des écoles en maternelle et qu'elle s'est jamais autorisée à le faire parce qu'elle avait deux enfants, parce qu'elle avait un prêt à rembourser, parce que la vie, parce que tout ça. Et je pense que ça a été vachement important en fait dans ma construction. C'est-à-dire que souvent je lui disais, mais pourquoi tu peux encore le faire? Et elle me disait, oh non, c'est trop tard. Enfin, toutes les excuses qu'on se donne en fait tout le temps pour se dire que bah non, c'est pas le moment. Enfin voilà. Et en fait, quand il y a, je pense que ça a été un moteur aussi chez moi, c'est-à-dire que voilà, je ne voulais pas regretter. On parlait du regret tout à l'heure. Je voulais pas regretter. Alors j'avoue que j'avais le confort extraordinaire en tant que fonctionnaire de pouvoir me mettre en disponibilité.
Ouais, donc tu pouvais revenir.
Voilà, c'était un peu mon joker, c'est-à-dire que je tente, je regarde ce que ça donne, et puis si ça va pas, je reviens et je récupère mon job. Et ça, c'est vrai que c'est un gilet de sauvetage incroyable.
C'est clair,
Et je me suis dit, si je le fais pas et que je me cherche toutes les excuses du monde pour pas le faire, en fait, il y a un jour, peut-être, quand je serai vieille, et ben, je pense, ou peut-être même pas vieille d'ailleurs.
c'est ça, tu pourrais dire aussi à 40 ou à 45 ans.
Voilà. Un jour, je vais me faire une crise en me disant, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je ne l'ai pas tenté? Pourquoi j'ai pas, même pas essayé, en fait. Même pas essayé. Et je me suis dit, ça, en fait, j'arriverai pas à le supporter.
Bon, alors j'espère que ça va pas être la révolution chez tout le monde. Hein. On n'osera pas rester que tout le monde aura une vague de démission. Ouais, c'est bon, je plaque tout.
Alors,
Non.
tu crois pas si bien dire, parce qu'en plus, il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec une amie et elle a quitté son job là. Elle a décidé de quitter son job, elle a commencé à en parler et elle part dans 3 ou 4 mois, je crois. Et elle m'a fait un message en disant, oui, c'est grâce à toi. Et alors là, je me suis sentie d'une responsabilité terrible. Je me suis dit, oh merde, je crois que j'ai fait une connerie.
Je comprends, je comprends. Bon, mais je pense que c'est un cheminement des fois qui doit. Enfin, c'est sûr que ça doit s'installer dans le temps et que des fois, il suffit pas grand-chose pour qu'il y ait ce petit déclic en disant bon bah ça y est, allez. Là, je l'ai eu ce petit déclic et bingo, j'y vais. Ou alors bah non, ça sera dans 6 mois ou dans 2 ans ou dans 3 ans et en fait c'est pas très grave. L'essentiel c'est d'aller à votre rythme, je crois, et
Exactement. Tu vois, moi,
de
j'ai mis 10 ans à me lancer à mon compte, entièrement à mon compte. Donc, mon cheminement, il a été long et je pense qu'il était néanmoins nécessaire parce que je me serais lancée à 100% tout de suite. Je pense que, un, j'avais pas suffisamment travaillé ma confiance en moi. Donc, je l'aurais très, très mal vécu. Ça, ce serait peut-être certainement pas, enfin, peut-être. On sait pas. Mais ça serait peut-être, avec une confiance en moi qui était vraiment beaucoup moins bonne, ça serait peut-être pas passé de la même façon. Je pense qu'il était nécessaire. Les choses se passent au moment où elles se passent. Des fois, il faut donner juste un petit coup d'accélérateur. Mais quand on sent que c'est le bon moment de le faire aussi, il faut aussi savoir s'écouter. Il y a des moments où c'est pas le bon moment. Ben, c'est pas le bon moment. Et on peut quand même avancer dans son projet et le construire et se former et essayer de lever les freins qui nous retiennent, en fait. Moi, j'avais des freins, hein. J'avais effectivement cette confiance en moi. J'avais aussi le fait qu'on ait acheté notre logement et qu'il fallait que je rembourse et que voilà, c'était très angoissant pour moi de me dire si j'arrive pas à rembourser et si j'arrive pas à avoir assez d'argent pour vivre après avoir remboursé le prêt.
Bah oui, c'est clair.
Faut pas se lancer à la porte-pièce comme moi.
Non, non, mais je crois que c'est ça le maître mot. Il faut juste s'écouter, prendre le temps de peser tout ça. Tout doit décanter, certainement, laisser un peu le temps aux choses de se faire. Et puis, si ça doit se faire, ça se fera. Et des fois, on n'est pas très patient. Moi, c'est un peu mon cas, hein. J'ai une patience assez limitée, donc j'essaye de faire en sorte que les choses avancent. Mais il y a aussi des moments où je me dis, bon, c'est que c'est pas le bon moment. Et puis, il faut attendre.
Ouais, et ça t'empêche pas d'avancer quand même parce que tu
Oui,
construis d'autres choses.
c'est clair. Eh bien, écoute, mille merci, Laetitia, pour ton temps.
Bah merci à toi.
On te souhaite une super fin d'année. Alors, quand on va diffuser, on sera en début 2021. Je vais pas te souhaiter une bonne année parce que je trouve ça nul en décembre. Ça se fait en début janvier. Ça se fait pas avant. Mais en tout cas, je te souhaite le meilleur. Évidemment, on te retrouve sur ton blog et puis sur Instagram.
Oui, tout
Et
à fait.
puis forcément avec des lives, des petits moments sympas à passer ensemble dans les semaines qui viennent.
Tout à fait, ouais. Et puis, je pense qu'il y aura d'autres choses, voilà, en janvier, février. Il y a un projet de bouquin qui doit sortir peut-être aussi un jour.
Génial. Bon, eh ben super.
Voilà, ce qui est un guide du Paris DIY, du coup, je le glisse,
Ah oui, c'est vrai. Ouais.
qui sortira si jamais un jour tout rouvre.
Toutes les entreprises, tous les commerces peuvent accueillir
Ouais.
de nouveau les clients. Bon, bah
Voilà.
super. Et on en reparlera à ce moment-là.
Ok.
Merci beaucoup,
Eh
Laetitia.
ben, merci beaucoup à toi.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Me revoici. Pour retrouver Laetitia, c'est sur son blog verserise.com et sur Instagram, c'est verserise également. Que vous veniez de découvrir le podcast ou que vous m'écoutiez régulièrement, je vous invite chaleureusement à noter et à commenter le podcast sur votre appli podcast sur votre iPhone ou sur iTunes. C'est hyper important pour que le podcast puisse être découvert par d'autres auditrices et d'autres auditeurs. Vous savez, les algorithmes, tout ça, tout ça. Je compte sur vous pour faire exploser le nombre de notes. Et n'hésitez pas évidemment à me laisser un petit mot doux, c'est trop bon. Je vous parle d'Apple Podcast, mais évidemment tous les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast, mais également sur mon site podcastfemin.fr et sur YouTube. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode, et d'ici là, prenez soin de vous, et n'oubliez pas de créer. À bientôt.